Bonne Feuille. 40 romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, L'autre Simenon, de Patrick Rogers, aux éditions Grasset.
J'ai choisi La métamorphose de Franz Kafka, traduit de l'allemand par Alexandre Vialat. Un matin, au sortir d'un rêve agité, Grégoire Sansa s'éveilla transformé dans son lit en une véritable vermine. Il était couché sur le dos, un dos dur comme une cuirasse, et enlevant un peu la tête, il s'aperçut qu'il avait un ventre brun en forme de voûte divisé par des nervures arquées. La couverture à peine retenue par le sommet de cet édifice était près de tomber complètement. Et les pattes de Grégoire, pitoyablement minces pour son gros corps, papillotaient devant ses yeux. J'ai donc choisi La métamorphose de Franz Kafka, traduit de l'allemand par Alexandre Vialat, tout simplement parce que, à un moment donné dans mon livre, je dis que mon personnage est comme un cancre là. Et au fond, cette cuirasse qui va pousser sur le dos de Grégoire Samsa, c'est exactement ce qui arrive à Christian Simenon, avec le rexisme et le fascisme, qui le protège comme une cuirasse. Alors, il y a toujours comme ça des choses totalement extraordinaires. Et effectivement, je connaissais l'histoire de Christian Simenon, son itinéraire, son parcours de rexiste, de fasciste, sa fin incroyable à la Légion étrangère, en réalité dans mon livre « À la Légion Wallonie », sous un faux nom, Christian Renaud. S'appelait Christian Renaud quand on s'appelle Christian Simenon. Et donc, je me suis dit que il y avait là tout un fil à tirer, une histoire étonnante d'un personnage qui n'avait pas eu d'existence et qui est évidemment un sujet romanesque parfait. La mise en lumière, au fond, de Christian, le personnage inconnu, mettant en valeur, révélant la part d'ombre du frère connu, Georges Simenon. Christian est un personnage sans identité, sans personnalité, sans ambition, contrairement à son frère Georges, qui en a énormément. Et je n'ai pas voulu lui en donner. J'ai voulu qu'il reste un personnage inapparent, qui n'existe que par les uniformes, que par les saluts. Je lui ai enlevé toute vie privée, je lui ai enlevé toute psychologie, je lui ai enlevé, au fond, toute excuse. Il n'a pas non plus de fantasmatique. Il n'a pas de culpabilité. Il est simplement celui qui fait, celui qui agit, et qui va jusqu'à devenir le tueur que cette tuerie de Courcelles révèle. Le livre débute sur un meeting de Léon de Grelle au Palais des Sports de Bruxelles, auquel il assiste en fait par hasard, n'étant pas du tout préparé, devant 35 000 personnes. C'est là qu'ont lieu les matchs de boxe, les courses de 6 jours, et il est fasciné par le spectacle auquel il assiste, et aussi par la personnalité de Léon de Grelle, qui est un tribun populiste tout à fait étonnant, un mégalomane effervescent, et beaucoup de choses le rapprochent de Grelle, parce que Léon de Grelle a le même âge que lui. Il est d'un milieu très très catholique, d'une famille de 13 enfants, exactement comme la mère de Christian, et beaucoup de choses lui parlent, et il est fasciné, et c'est comme ça qu'il va être happé au fond, sans réfléchir du tout, par le rexisme.
Nous allons vous écouter, nous lire les premières pages de L'autre Simenon, où Christian justement se trouve happé dans le mouvement rexiste.
Christian avait longtemps hésité à entrer car il n'entendait rien à la politique. Mais en pénétrant dans l'immense vaisseau, il avait été impressionné par la découverte de l'imposante tribune de 30 mètres de large sur 5 mètres de haut, peinte en rouge vif et garnie de frises écarlates sur lesquelles irradiait l'emblème du parti formé d'une couronne royale, surmontée d'une croix en or et de lettres en caractère noir qui formaient le mot « Rex ». La salle était pleine à craquer. Et sous la verrière prête à exploser comme une bombe, se tenaient des ouvriers avec des casquettes. Des mineurs aux trognes éberluées, des cheminots, des petits commerçants, des employés, des rentiers sur lesquels pleuvaient des tracts lancés du dôme transparent comme un ovule ou un ballon dirigeable. 2 heures avant le début du meeting, il n'y avait plus de place pour une épingle. Même une mouche n'aurait pu se glisser dans l'enceinte autour de laquelle les rexistes en uniforme montaient la garde par crainte d'attentat. L'un d'eux ayant été abattu à l'endroit signalé par une gerbe de fleurs, ornée d'un ruban flasque. Il avait fallu fermer les portes avant l'ouverture. On avait inspecté les gradins et des milliers de personnes avaient dû rester dehors. Quelques échauffourées avaient éclaté avec des opposants virés à coups de poing et de pied et au bas de l'estrade monumentale, qui avait au moins coûté 10 000 francs, où pétillaient des éclairs de magnésium illuminant les drapeaux flamboyants et que le public, assis sur des banquettes contemplées de loin, se tenait au garde-à-vous des gymnastes en maillot blanc frappés du sigle du mouvement et des rexistes en tricot bleu à brassard rouge sang. Face au podium, une énorme faute d'orthographe s'étalait sur une pancarte plantée dans une tenture noire. « Nous battrons, avec un T, le fascisme. » Christian était abasourdi et il se demandait comment il s'était retrouvé là. Cela s'était passé tout simplement. « Tu connais Léon ? » Tout le monde parle de lui. Ce n'est pas une raison. Pourquoi ne viens-tu pas? L'occasion fait le larron. Je n'entends rien à cela. Qui ne risque rien à rien? Si tu ne t'en occupes pas, la politique s'occupera de toi. Il n'y a que le premier pas qui coûte. Ne discute pas, viens. Et après, on ira au café. Il avait voulu rebrousser chemin, mais le public qui affluait l'en avait empêché. C'était la foule des grands jours. Elle déferlait comme une forte marée. Jouant des coudes pour se maintenir à flot, Christian fixait le panneau et ne voyait que le T qui rendait dérisoire les cris d'impatience du public réparti sur la pelouse et dans les tribunes. À chaque porte, c'était la cohue. Le service d'ordre était débordé. Chacun était accueilli par un rugissement à son entrée. Rien n'était laissé au hasard. Tout était parfaitement organisé. Le chauffeur de salle hurlait dans un mégaphone « Rex !» et la salle répondait « Vaincra !» Cela restait à prouver. Les hommes sont des moutons, des poules, des ânes, des veaux, des êtres sans cerveau que n'attire qu'une pensée. La même pour tous. Chacun la comprenait. Tous la martelaient. Le souffle coupé, Christian se trouvait isolé dans une mer de têtes d'où une seule clameur s'élevait. « Rex vaincra !» Et la foule aveugle répétait « Vaincra !» Les haut-parleurs transmettaient dehors les acclamations du peuple massé à l'intérieur. Ceux qui étaient dedans, comme ceux qui patientaient hors de la cuvette, tendaient le poing, symbole passe-partout. Rien ne leur résisterait. Cela faisait froid dans le dos. En coulisses, l'orateur qui ne manquait pas de punch s'échauffait en sautillant sur place d'un pied sur l'autre, sans varier le rythme, tel un boxeur à l'entraînement, se servant comme d'un ballon du public qui payait 5 francs le billet d'entrée vendu sous l'appellation « soutien au fond de combat ». Ce qui ne plaisait pas à tout le monde, et attisait la grogne de ceux qui grommaient, les ronchonnes surtout. « C'est beaucoup trop cher !»« Et alors ? Au cinéma, tu payes aussi ? Au spectacle, on paye sa place. Voir Léon est impayable. C'est une vedette. Il fait toujours recette. » Le précédait une flatteuse réputation. Au palais des sports d'Anvers, où se courent aussi les 6 jours, il avait harangué 40 000 personnes juchées sur une tribune perchoir. Tel un perroquet gouailleur devant un auditoire débordant d'enthousiasme, il brassait et pétrissait la foule médiocre et moutonnière jusqu'à en faire une seule âme. Un bloc de chair. Il était capable de tenir 3 meetings en une matinée. 5 en un après-midi, 10 en une journée. Parlait aux heures les plus improbables dans les hameaux à l'écart et les patelins les plus reculés, inaccessibles même à pied dans des salles pleines à craquer, ornées de guirlandes et de bannières ou dans des granges transpercées par le vent et dans des prés à la lumière des phares. Il séduisait les faiblards et les aigris, les grincheux et tous les laissés pour compte qu'il se flattait de venger en tapant à perdre haleine avec un entrain triomphant sur les politiciens, pillards de la petite épargne dont il dénonçait les agissements, les forfaits, la corruption et traitait de limaces rampantes. De combinards décrépits, de tripoteurs de bas étage, de vieux cacochimes verdâtres aux yeux de crapauds morts et de coqs de basse-cour à crête d'épouvantail. Mais il y avait aussi des pères de famille, des modestes artisans, des salariés rangés et des bourgeois bornés. Tous applaudissaient la performance. Il a la langue bien pendue. Quel talent d'orateur, quel verbieur intarissable! Il nous paye de belles paroles. Tu ne le prends pas au sérieux? Si, je le prends au mot. Son éloquence touchait le cœur des gens. Il ne manquait pas de culot ni de courage, se riait des convenances, se changeait dans les arrières-salles de café où il avait échappé d'un cheveu à un machiavélique attentat lorsqu'une tête de sanglier, accrochée au-dessus de l'estrade de fortune, avait failli lui tomber sur la figure et lui briser le crâne. Semant chemise, collé cravate aux 4 coins du pays, il filait comme un dard. C'était une attraction locale, un stratège de comptoir. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Un jour, il avait même péroré en caleçon. On avait tenté, mais en vain, de le retenir. « J'y vais, comme ça !» avait-il lancé, bravache. Dans cette tenue, il n'y a pas de tenue pour convaincre. Et il s'était élancé, ayant retroussé ses manches après avoir bu du bouillon bouillant, nectar bouillonnant de sa contrée natale. Devant 10 000 auditeurs, plantés comme des oignons de tulipe, admonestant les politiciens fripouilles, démoniaques rapaces, combinards obscurs, fumiers véreux et abominables tarés. On lui avait coupé le fil du micro, mais il ne s'en était pas aperçu. Il avait continué de plus belle, comme si de rien n'était, et sans que l'on ne perde une syllabe de ce qu'il disait. Ce ne sont pas des paroles creuses. Il sait parler aux braves gens. Quel talent hors pair, quel sens de l'autorité, quelle vision d'avenir. Ce type est digne de gouverner le pays. Tous n'étaient pas de cet avis. Ses détracteurs le tenaient pour un agitateur de brasserie comme Adolphe. C'était un marchand de saucisses, un braillard qui s'écoutait parler, un fort engueule servi par son talent de publiciste verveux et son comportement d'illuminé, de verbomane intarissable. C'est un fichu roublard et c'est un cumulard. Je n'ai pas confiance en lui. C'est un moulin à vent ou un courant d'air. Leur exisme était impopulaire et l'on disait que son chef ne connaîtrait jamais la réussite. Mais ses meetings avaient de plus en plus de succès. Il attirait des foules géantes et se produisait dans des salles de plus en plus grandes, à Mons, à Namur, la ville la plus calme du pays, à l'énorme palais du peuple de Charleroi, capitale du pays noir, et à Liège, cité ardente, dans une usine gigantesque désaffectée à l'odeur de suie, où retentissait le brouhaha des chariots glissant sur les rails et le tumulte des marteaux-pilons. Quel flambard! Quel bourreur de crâne! C'est une tornade! C'est un loup déguisé en agneau. Il ment comme un arracheur de dents. Qu'importe. Il était devenu célèbre. On parlait de lui dans toute la Belgique. Juché sur le perchoir d'où il malaxait la foule femelle, le mâle tribun imbu de son importance, mais à l'imagination fantasque qui pêchait par manque de réflexion et par une soif de pouvoir confinante à la mégalomanie, poursuivait son ascension. Irrésistiblement. Là, un opposant s'était fait attacher à un radiateur par un énorme cadenas dont un complice avait emporté la clé. On avait mis une demi-heure à le détacher, et à le faire taire, puis à scier la chaîne. Ici, le meeting était interdit, n'importe. Le chef de Rex avait loué un bateau mouche et harangué au milieu du fleuve la troupe des manifestants qu'il avait bombardé depuis la berge. Un acolyte avait été blessé à la jambe. Un autre avait reçu une brique sur le crâne. Il avait la tête dure et de mauvaises idées dedans. Tout cela renforçait la popularité du chef qui ne cessait de grandir. À nous le peuple. La flamme rexienne embrasait tous les publics. Mais les choses tournaient parfois mal. Quelques heures avant le meeting auquel assistait par hasard Christian, un garçon de 16 ans, fort laid, avait tué son père de 60 ans, au teint rose, aux yeux rouges et aux dents vertes. Le fils, apprenti pâtissier, lui avait réclamé 5 francs. « Pour sortir ta fiancée ?» avait demandé le père. « Non !» avait bougonné le fils. « Alors pourquoi ?»« Ça ne te regarde pas. »« Je suis ton père, j'ai le droit de savoir. »« T'es un vieux con. »« Je t'ai nourri à la sueur de mon front. »« Passe-moi 5 francs !»« Dis-moi d'abord pourquoi. »« Tu veux vraiment savoir ?»« J'en ai le droit. »« Allez écouter De Grelle. » Tu veux nous couvrir de honte? C'est déjà fait. Rex est un vilain parti. Alors, tu refuses? Plutôt me passer sur le corps. Le fils avait sorti une arme de sa poche et en disant « Voilà pour toi », avait vidé le chargeur. 3 balles dans la poitrine, 1 en pleine tête. Sur son père qui s'était écroulé en jurant « Fils ingrat, fils traître, fils renégat. » Le père est mort, vive le fils. L'apprenti pâtissier au physique ingrat avait piqué l'argent dans la poche du père. Avant de quitter les lieux, paraphrasant le chef de Rex sur Hitler, il avait lâché « Si j'avais eu un père, je n'aurais pas voulu qu'il soit comme toi. » Et il avait filé à vélo, pédalant comme un forcené pour arriver à temps au palais des sports, et acquitté son billet d'entrée dans l'antre surchauffé où la masse rougissante s'agglomérait et où s'apprêtait à paraître l'orateur. Christian est saisi à la gorge par ce à quoi il assiste. C'est extrêmement violent, ce phénomène de masse dans lequel il est lui-même dissolu comme un individu sans existence. Et je trouve que cette scène très cinématographique, qui se déroule d'ailleurs sur 4 chapitres, qui est la première partie, c'était une manière de prendre le lecteur à la gorge. Pas de se projeter sur Christian, c'est un livre écrit sans empathie, mais d'être pris dans la violence d'un meeting, comme on peut le voir aujourd'hui par des partis d'extrême droite. Je pense qu'il y a une récurrence du présent. J'étais très, 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 très frappé en travaillant sur De Grelle, les discours, les textes qui sont d'ailleurs interdits en Belgique, en regardant sur YouTube les entretiens qu'il a donnés, puisqu'il a vécu 40 ans en Espagne sous Franco, lui qui était un grand ami de Jean-Marie Le Pen, de voir la permanence du discours, la même violence, le même égo du chef, la même puissance, le même charisme physique, physiologique, incarné par le chef, le tribun, dans lequel le peuple, comme un troupeau se dirigeant à l'abattoir, croit de manière aveugle et idiote. Comme Georges Simenon est un personnage extrêmement important dans le livre, évidemment, que c'est un véritable opportuniste pendant la guerre... Il collabore avec les Allemands quand même, il apprend l'allemand en 1942, il dit que sa mère est arienne alors qu'elle est flamande. Il est quand même l'auteur le plus adapté au cinéma pendant l'occupation avec 9 films, donc 5 produits par la Continental, qui est quand même une firme de production fondée par Goebbels, dirigée à Paris par Alfred Greven, qui jette son chapeau sur le buste d'Hitler lorsqu'il entre à son bureau à quelques mètres des Champs-Élysées. Il vend l'exclusivité des droits de Maigret pendant 3 ans pour 500 000 francs, ce qui est une somme absolument exorbitante à l'époque. Donc, un opportunisme accablant de la part de Georges Simenon, pas vu, pas pris, il se montre, et finalement, il disparaît toujours, il s'en sort chaque fois.
Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste.
Alors ça m'a beaucoup amusé, j'adore la chanson, j'ai choisi l'opportuniste Jacques Dutronc, qui est une chanson perfide, bien dans l'air du temps, et qui vraiment colle parfaitement à l'attitude de Georges Simenon pendant l'occupation.
Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs, je fais confiance aux électeurs.
Dutronc Simenon, l'opportunisme à tout craint est toujours d'une très grande actualité.
C'était Patrick Rodgers qui nous présentait son roman L'autre Simenon, qui paraîtra aux éditions Grasset. Les Bonnes Feuilles, Sandrine Trenner, Anne-Vanessa Prévost, Soma Nina, Manuel Couturier.